Bonjour, je suis Charlotte Coulot, chanteuse et pianiste de la région Occitanie. J'ai le plaisir de vous convier à un rendez-vous mensuel autour de la voix, dans lequel il sera question de la voix dans tous ses états. Mes invités seront des hommes et des femmes d'exception qui connaissent les secrets de la voix par cœur. Ils nous livreront tous leurs conseils de pro pour avoir une belle voix, prendre soin de notre voix et rayonner avec. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous chaque mois dans cette émission « Charlotte vous montre la voix ». Allez, c'est parti pour cette troisième émission que j'ai le plaisir de co-animer avec l'emblématique Bruno Verrier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter un chanteur hors norme, puisqu'il s'agit de Pierre Espinard. Pierre, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes un homme d'exception, déjà vous habitez dans la région, mais en plus vous avez été entre autres dans votre magnifique carrière la doublure de Luis Mariano.
C'est exact, il y a déjà quelques temps, oui, en effet.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Tout le plaisir est pour moi.
Et de nous avoir rejoints dans les studios de Radio Galaxy. Je vais laisser le soin à Bruno de nous parler un petit peu de votre parcours, de votre vie exceptionnelle.
Oui, bonjour Pierre.
Bonjour Bruno.
Alors Pierre, c'est vrai qu'une personne a dit lorsqu'elle est venue dans cette émission, c'était la première émission de Charlotte Coulot, il s'agissait de Muriel Chauvin, et on a dit qu'on allait recevoir des ténors. Et elle s'est exclamée tout de suite, haha, les ténors, ce sont des personnages un peu farfelus qui ont eu toujours un parcours d'exception. Et Pierre Espinard, que vous connaissez, chers auditeurs, parce que Pierre Espinard a animé pendant de très nombreuses années des émissions de musique classique avec des voix d'exception sur Radio Galaxy. Et donc, Pierre Espinard a aussi un parcours d'exception. Pierre, ténor, c'est ça ?
Exact.
Ténor, ça veut donc dire une tessiture particulière pour une voix d'homme.
Oui, tout à fait. Alors donc, j'avais commencé dans ma carrière, disons, accidentellement, d'abord au Châtelet, à Paris. J'ai eu le plaisir de connaître donc, l'un des associés donc, du Moulin Rouge à l'époque, qui était très ami avec Luis Mariano, et qui me l'avait présenté. Que lui, à ce moment-là, il me dit « Voyons, mon ami m'a dit que tu chantes. » Alors, je lui dis « Oui, j'ai une voix assez forte, je crie, c'est vrai, on m'entend de loin, mais chanter, je n'ai jamais travaillé ma voix. » Et je garde précieusement donc, chez moi un petit bout de nappe, de papier, donc de la table sur laquelle on s'était assis, donc quatre personnes. Et puis, il m'avait écrit les deux premières lignes de la chanson « Granada ».« Granada, tierra soñada por mí », etc. Et il m'a dit « Vas-y ». Alors, sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'est la caméra invisible, c'est la caméra cachée. Là, je dis, bon, d'accord, ok. Il faut avoir de culot. Alors, je monte sur une chaise, carrément sous la chaise où j'étais assis, je prends ce bout de papier et je me mets à chanter Granada, tierra. Mais alors là, avec. J'ai exagéré. Donc, ma voix, j'ai crié, mais alors, comme à jamais. Et puis, j'ai vu la grimace qu'il faisait Luis. Alors, il lui avait dit donc à son collègue, c'est vrai qu'il a de la voix, mais par contre, il y a du boulot, hein, il y a du travail. Hein. Voilà, et j'avais commencé comme ça. Et un an après, c'était l'un des techniciens qui m'a fait passer une bande et qu'en réalité, la voix, on ne se reconnaît pas. Lorsqu'on parle, on entend la voix d'une façon, notre, intérieurement, et lorsqu'on s'entend après un enregistrement, on se dit « Mais zut, c'est bien moi ça, c'est pas possible. » Et ce technicien m'avait dit « C'est bien toi. »
On va écouter un extrait de Granada.
Oh, c'est très bien, merci.
Granada. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te doy.
Donc, ses débuts au théâtre du Châtelet, pas tout de suite comme choriste ou comme ténor. Ça a commencé comment au Châtelet ?
On avait sympathisé donc, avec Mariano. Et puis, avant de partir, il me dit « Tiens, voilà, donc mon numéro de téléphone à la maison du Pays Basque. Et puis, tu m'appelles quand tu viens donc à Paris. Puis, il faut qu'on se retrouve. » C'est vrai qu'il avait dû voir quelque chose. Il avait dû voir donc un timbre, un fond, quelque chose donc qui lui intéressait. Et cet associé donc au Moulin Rouge, lorsqu'il m'a ramené donc à mon véhicule donc à Paris, il me dit moi je te donne ma carte, appelle-moi quand tu reviens, parce que lui il s'est intéressé à toi, donc ça m'intéresse. Voilà, donc ça avait commencé comme ça. J'ai commencé à travailler ma voix et j'ai commencé donc à me prendre au sérieux un an après. C'est-à-dire lorsque le technicien, comme je disais tout à l'heure, m'avait fait entendre cet enregistrement.
Alors Pierre, comment est-ce qu'on travaille sa voix au départ, au tout début ?
Alors tout à fait au début, on ne sait pas le faire. On ne sait pas comment il faut travailler la voix. On ne sait pas, lorsque on n'a pas fréquenté ce monde donc, du show business, le monde de la chanson, le monde artistique, on se pose la question, comment est-ce que je fais ? Quand j'étais à l'école, j'étais soliste dans un groupe. Angèle, il s'appelait donc le pianiste, et il m'avait donné quelques conseils. Il m'avait dit de quelle façon il fallait faire la respiration, la voix, tout un tas de choses qu'il m'avait donné, qui restaient donc dans ma mémoire. Et à partir de là, j'ai essayé de faire tel comme il m'avait dit. Avec la différence, c'est que quand il m'avait conseillé tous ces genres de conseils, j'avais 10 ans. Et là, ma voix a changé à partir donc de 13, 14, 15 ans. On change la voix, c'est-à-dire que l'homme descend, disons, relativement presque en octave de sa voix à ce moment-là, alors que les femmes, vous avez la chance parce que vous descendez tout juste un quart d'octave. Donc, c'est vraiment une chance, vous conservez plus ou moins votre voix, plus ou moins. Et j'ai commencé à travailler à l'aveuglette, un petit peu comme ça, à ma façon. Et c'est lorsque, un an après, là, je me suis pris vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose dans moi que je ne connaissais pas et que Mariano, il s'est rendu compte. Là, à partir de là, je faisais, mais la, 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 c'est classique, donc, pour chauffer la voix. Et je voulais savoir exactement jusqu'où je pouvais monter. Il fallait que je monte, et je montais, je montais, je montais. Il arrive un moment où on cale. Parce que là, il y a, bon, ben, là. Et là, je me disais, c'est là qu'il faut travailler. Parce que tous les restants, do, ré, mi, fa, sol, la, et là, il arrive un moment où ce manque de voix, le souffle, je ne le prends pas comme il faut, je ne sors pas, comme on me disait toujours, la voix vraiment du ventre. J'ai essayé de toutes sortes de façons la sortir de là. Et alors, c'est à ce moment-là donc, que j'ai commencé à travailler sérieusement. J'ai demandé des conseils, j'ai appelé au téléphone, j'ai fréquenté des gens, des pianistes, des violonistes, des guitaristes. Et là, j'ai commencé à progresser. Là, je me suis rendu compte que petit à petit, que c'est en travaillant, en insistant sur quelque chose, qu'on peut y arriver. Donc, voilà, et c'est comme ça que j'ai gagné. Donc, bien longtemps après, j'ai gagné quand même 3 octaves. Voilà.
3 octaves, ça fait beaucoup.
Oui.
Est-ce que la respiration, c'est si important que ça? Et finalement, qu'est-ce que vous retenez? Comment est-ce que vous pourriez expliquer votre travail sur la respiration en quelques mots? Est-ce que les conseils du pianiste, quand vous étiez petit, sont restés les bons conseils pour vous?
Oui, alors, c'est resté, c'est très bien resté, parce que d'autant plus qu'on m'avait donné un dessin, là où il y avait toute la partie du larynx, les cordes vocales. Moi, je pensais que les cordes vocales, ils étaient donc à la verticale. Voilà. Alors que c'était complètement faux. Les cordes vocales sont à l'horizontale. Et puis, à partir de là, lorsqu'on respire, s'ouvre. Et lorsqu'on a fini de respirer, qu'on va expulser l'air, c'est là qu'il se referme. Le poumon envoie l'air et force donc les cordes vocales à s'ouvrir de la façon donc qu'on lui commande, que le cerveau lui commande de faire. Voilà. Et ça, je l'ai appris donc bien jeune. C'était mon début du travail, voilà, donc pour la voix.
Donc ça, c'était le début du travail de Pierre Espinard pour monter sur les planches. Ensuite, le parcours s'est complexifié parce qu'il a fallu travailler de plus en plus, parce que là, il y a eu des propositions de spectacles.
Oui, c'est-à-dire que là où j'ai tremblé comme une feuille, c'est lorsque il est venu cet ami donc à Mariano, qui était l'un des associés de Moulin Rouge, qui est venu me voir, qui m'a dit « Il faut que tu viennes chanter au Moulin Rouge ». Alors là, je suis rentré au Moulin Rouge, j'étais, les jambes me tremblaient, je ne savais plus quoi dire, j'ai tremblé comme une feuille. Parce que c'était renommé qu'il y avait le Moulin Rouge, c'était, je l'avais dans le cœur. Et je me disais toujours, un jour il faut que tu rentres au Moulin Rouge, il faut que tu connaisses, il faut que tu vois de quoi il s'agit, ce Moulin Rouge. Et quand je suis rentré dans les coulisses, et que j'ai vu, parce qu'on m'a invité donc à rentrer, et quand j'ai vu ces filles s'échanger, aller par-ci et par-là, ces gens donc, qui chauffaient la voix, qui venaient, qui prenaient un micro, qui montaient sur la scène et qui commençaient donc à la 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 pour chauffer un petit peu la voix. Et là, je me suis senti Comment je me sens toujours aujourd'hui au paradis. Voilà, c'était vraiment formidable. Et c'est là que j'ai fait donc ma première actuation dans Moulin Rouge.
Et c'était quoi?
Eh bien, j'avais chanté donc Mexico, les plus classiques donc qu'il y avait, et j'avais chanté donc une chanson qui est très douce, qui est très douce. Donc les cloches de Nasse, c'était une chanson qui est très douce, très douce, à l'endroit donc là où il est né Mariano.
On va écouter un extrait de Mexico, un classique de Luis Mariano.
Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.
Donc quelques chansons, un petit peu, j'étais sorti un petit peu des rails, parce que bon, je tremblais comme une feuille, et le track, soi-disant qu'on n'avait pas trop entendu, moi je l'ai senti, je l'ai entendu, je me le suis reproché toute ma vie, pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi, alors qu'il ne fallait pas, voilà. Mais c'était ma première actuation, donc j'ai chanté 4 chansons. Je me suis senti vraiment le plus heureux des hommes, parce que bon, je n'y pensais pas à arriver là aussi vite.
Donc, Pierre Espinard sur les planches du Moulin Rouge à Paris, c'était à quelle époque ça?
À Paris, c'était, je te parle des années 66-67, puisque Mariano, il nous a quittés le 14 juillet 70.
Et comment on passe des planches du Moulin Rouge derrière le rideau au Châtelet?
Je ne me donnais pas du mérite. Je donne du mérite donc à quelqu'un donc, qui cherche. Depuis le départ, depuis son début, il cherche donc à percer, à arriver à quelque chose, à essayer de connaître du monde, se faire connaître lui-même. Et que moi, par un incident à Paris, que j'ai connu cette personne, que je vous raconterai parce que c'est vraiment très marrant, qui me présente un Luis Mariano, le roi de l'opérette à l'époque, et qui me donne accès donc au Moulin Rouge. J'étais miraculé.
Depuis tout à l'heure, on parle d'opérette. Oui. C'est quoi l'opérette ?
L'opérette, c'est marrant parce que les vrais connaisseurs de l'opéra ont très, très, très mal pris ces mots opérette. Qu'est-ce que c'est que l'opérette? Et lorsqu'ils ont entendu au théâtre l'opérette, ils ont dit, mais c'est horrible, c'est pas possible, c'est jamais de la vie. L'opéra, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de ferme. Et c'est à partir dans les années 1800 que l'opérette est née, mais ils ont fait ça, l'opérette d'abord, artistiquement, c'était plutôt rigolo, c'était parce qu'il fallait parler donc, en même temps, donc ils chantaient n'importe quoi, c'était un peu de... Mais c'était le bienvenu parce qu'on ne les connaissait pas. Il fallait donc adapter ce genre de programme dans un théâtre d'opéra. Alors, ça fait qu'au début, c'était très mal vu et les théâtres, ils étaient relativement vides. Et c'est petit à petit, quand les gens, artistiquement, se sont penchés sur cette branche, qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même un charme, qu'il y avait quelque chose de gentil, doux dans l'opérette, que dans l'opéra, c'était beaucoup plus rigide. Il ne fallait pas la moindre faille, c'était vraiment... Alors que dans l'opérette, à l'époque, donc aujourd'hui, bon, c'est devenu beaucoup plus sérieux, mais on pouvait se rattraper sur une faille.
L'âge d'or de l'opérette, c'est les années de 40 à 60 à peu près.
Tout à fait.
D'où ces grands noms, entre autres Luis Mariano.
Et José Villamor, Mario Lanza. Mario Lanza, il faisait les deux. Il faisait dans l'opéra et l'opérette. Il avait... Et pris donc quelques chansons en opérette et qui lui plaisaient beaucoup. Seulement, voilà, donc l'étiquette qu'on pouvait donner à l'époque lui ont fait revenir sous l'opéra parce qu'on lui reprochait d'esquinter l'opéra donc, avec autre chose.
Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que la voix d'un ténor à l'opérette et la voix d'un ténor à l'opéra, c'est la même. C'est
oui.
Le même travail.
Oui, exactement pareil.
C'est le texte qui est différent, c'est le sujet qui est différent, mais c'est la même voix.
Tout simplement, c'est la même voix, une technique un petit peu différente, mais c'est exactement la même chose.
Et c'est ce qui a permis à Pierre Espinard aussi de faire la rencontre des trois ténors.
Exactement. J'avais connu donc à l'époque, au Châtelet, un jour, j'ai chanté « La tabernera del puerto ».« No puede ser », la chanson « No puede ser », et j'ai chanté ça.
Puede ser una mujer malvada, en su
Tout le monde s'est arrêté. Moi, je suis resté un petit peu sans savoir quoi faire parce que j'ai dit, la musique s'arrête. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Une coïncidence, comme autant d'autres que j'ai eues. Donc, il y avait donc Placido Domingo qui rentre en trompe donc, sur le au théâtre et il dit, qui c'est qui chante ma chanson ? Parce que c'est une opéra de Placido Domingo qui est devenu un chef de chef donc, à l'époque d'un maestro merveilleux, formidable. Et alors, donc, Placido Domingo s'est majestueusement rentré donc, au théâtre. Et alors, je l'ai vu arriver, et je l'ai reconnu bien entendu. Là, il m'allonge la main. Bonjour, ton nom c'est Pierre. Et moi, c'est Domingo. Voilà. Il me dit, écoute, donc, j'entendais chanter dans ma chanson, parce que c'est ma chanson, il était la propre pareil. Je lui dis, ah non, c'était vraiment formidable. On a passé 5 minutes, donc avec la présentation que j'ai eue donc, de Placido Domingo, ça a été vraiment une merveille. Voilà. Après, on s'est retrouvés donc, à Madrid, à sa maison, là où il est né. J'ai eu le plaisir de connaître donc, un petit peu sa famille. Donc, en revenant à Paris, il me dit, je pars donc pour l'Amérique latine. Avec une parenthèse, Placido Domingo est né en Espagne, à Madrid. Il avait 8 ans lorsque ses parents ont décidé de partir au Mexique. Et là, il revenait donc sur son pays, là où il a fait finalement sa carrière. Il était baryton. Il était baryton au départ. Et il est devenu donc ténor dans un concours. Ensuite, il lui a dit, mais vous avez une voix, un pouvoir dans cette voix magnifique, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de monter une gamme et avoir donc faire votre voix de ténor ? Il a essayé et il est devenu ténor, qui est redevenu aujourd'hui, une fois dans sa retraite donc prise, baryton de nouveau, parce que donc l'âge fait que... C'est pas que la voix change, c'est pas qu'elle appauvrit, mais on ralentit un petit peu la voix. On baisse d'un demi-ton, on baisse d'un ton de la voix, par crainte, et deuxièmement par respect.
Je me demande si vous avez aussi connu Alfredo Kraus.
Oui.
Ce grand ténor superbe, qui est un de mes préférés d'ailleurs.
Oui.
Et qui dans une masterclass en Italie, explique que ce n'est pas parce qu'on grossit, qu'on maigrit, qu'on vieillit, que la voix change finalement. Elle doit rester plus ou moins tout le temps la même, tout au long de la carrière.
Exactement.
Est-ce que c'est votre cas aussi ?
Oui, c'est mon cas. Bon, là, j'ai eu donc une petite, un problème. J'ai eu suite à un accident. Le 20 mars 78, j'ai eu un accident de la route. Et j'ai été donc transporté par les pompiers donc, à l'hôpital Saint-Léon à Bayonne. On me croyait mort. Il y a eu un arrêt cardiaque. Et puis ensuite, donc, au troisième électrochoc, je suis reparti. C'était le professeur Morin. Et là, il a été obligé de faire un entubage. Et lorsqu'on m'a fait l'entubage, je me suis rendu compte après, je crus mourir. Quand j'ai pu retrouver ma voix. Voilà. Les timbres de voix que j'avais semblables donc, à celles de Mariano, il m'a gagné dans les aigus quand même, hein, parce que c'était vraiment le vrai rossignol. Voilà. J'étais un fort rossignol. Lui, c'était le vrai, parce qu'il était vraiment fait, magnifique, dans tous les sens. Caractère, puis chanteur. Et là, voilà, je me suis trouvé sans voix. J'ai arrêté. Écoutez, je suis reparti à chanter donc, plus de 20 ans après. Parce que je me suis dit que j'étais fini, ma voix elle n'y était plus, donc je n'existais plus, c'est fini, c'est terminé. Et c'est le pianiste que nous avons aujourd'hui, Don Bernard, qui a fait sa carrière à Toulouse, au Conservatoire du Capitole, qui me dit un jour, Pierre, tout n'est pas perdu. J'entends ta voix et il y a quelque chose au fond de ta voix qui est très riche. Moi je pense donc qu'il faudrait qu'on essaye. Qu'est-ce que tu en penses ? Son père, René, c'est lui qui avait en cachette, qui avait conseillé à son fils, Bernard, qu'il fallait faire quelque chose avec moi, puisqu'il était sûr que j'avais pas tout perdu. Et en effet, on s'est rendu compte quelques temps après, même si mon timbre avait changé, parce que je n'ai jamais récupéré le même, mais je me suis rendu compte donc que la chanson, elle y était. Ma voix, elle y était. Même si les timbres n'y étaient plus, mais j'avais un nouveau timbre. Le professeur Morin, il s'était excusé, parce que dans mes papiers, ils avaient trouvé certaines cartes qui pouvaient lui dire que je chantais en même temps qu'il y avait des cartes de sport. Et là, je lui ai dit non, attendez, vous avez fait qu'une seule chose, c'est de me sauver la vie. Il n'y a pas de choix, vous n'avez pas à vous excuser. Voilà, je suis resté quand même 4 ans sans pouvoir marcher, puisque j'ai eu quand même une vingtaine d'opérations, 22 opérations en tout. Mais j'ai continué à travailler ma voix. Je la travaille même aujourd'hui, sauf quand je suis malade bien, à fond complètement, que je ne peux plus. Mais sinon, je travaille une heure et demie, tous les jours, je travaille ma voix. Et ça, c'est indispensable. Et Alfredo Kraus, je l'avais connu, donc c'est un Canarien, parce qu'il est des îles Canaries. Voilà, ensuite, il a fait sa carrière en Espagne, et puis il avait appris le valencien, où il a beaucoup de chansons en valencien, Les Valenciens et les Catalans, ils ont un petit peu tendance à ne pas trop s'apprécier. Voilà, et c'est pour ça qu'il faisait un petit peu sa vie à part. Mais il a beaucoup travaillé donc avec Domingo, qui est de Madrid, Carreras, qui est catalan.
Oui. Et,
mais Alfredo Kraus, c'était un perfectionniste.
Ah oui.
C'était un perfectionniste de telle façon qu'il fallait tout recommencer. S'il y avait la moindre erreur, la moindre faille qu'il y avait, il fallait recommencer parce que ce n'était pas bien.
Alors, Alfredo Kraus basait sa technique sur la technique du sourire. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'en souriant, il arrivait à avoir plus d'harmoniques.
Tout à fait.
Plus de notes aiguës. Il basait aussi sa technique sur la voyelle du I, qu'il pratiquait beaucoup plus que les autres voyelles, parce qu'il explique que c'est une voyelle antérieure qui place la voix devant, qui place la voix dans le masque.
Oui, c'est vrai.
Vous travaillez toujours votre voix sur la voyelle I, par exemple?
La voyelle I, je la travaillais beaucoup plus que les autres. Et c'est bon pour tout le monde, hein? Chanteur, bien sûr, qu'on consacre sa vie donc à la chanson. Allez, j'ose même dire religion qu'il y a donc dans la chanson. Écoutez, c'est pas difficile. Pendant tout mon accident que j'ai eu, j'ai écouté la musique, j'ai écouté chanter. Je ne chantais pas parce que je ne pouvais pas. Mais lorsque j'ai pu chanter, j'ai chantonné. Et c'est ce qui m'a aidé beaucoup. M'a beaucoup, beaucoup, énormément aidé. Et je conseille à des gens donc, qui ne sont pas trop bien au niveau de la santé, de faire autant. Parce que la musique, la gaieté que cela vous donne donc, dans le cœur, parce que la chanson, il faut la sentir. C'est l'amour de la chanson et le cœur donc, qui chante en même temps que la voix elle sort des cordes vocales.
Vous avez toujours autant de plaisir aujourd'hui à chanter?
Oui, toujours. J'ai toujours les tracts quand je monte sur la scène et j'ai toujours le plaisir de faire entendre quelque chose. Vous savez, c'est pour vous dire le plaisir que je sens. On a fait énormément donc, avec Bernard le pianiste et un ami, donc, il n'est pas trop chanteur, mais qui chante juste. Et on va dans les maisons de retraite. Faire passer une heure de temps, une heure et demie de temps à ces gens qui n'ont plus la possibilité la plupart ou de marcher, ou de parler, ou de pouvoir s'exprimer la plupart des fois. Et on dit que l'applaudissement est le plus beau des paiements. Ces gens, mais ils ne peuvent même pas applaudir. Mais rien que le sourire, c'est vraiment, ça arrive au fond du cœur.
C'est la récompense de chacun des artistes, ça.
Tout à fait.
On donne et on reçoit, en fait.
Tout à fait.
N'est-ce pas, Charlotte?
Tout à fait.
C'est ça. On arrive en fin d'émission. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu. C'était passionnant.
C'est vraiment avec plaisir, Charlotte.
On peut retrouver l'émission en podcast après sa diffusion. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci, Bruno.
Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer, y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco, antes o después, por donde me fui, me verás volver. Volver para sentir que estás cerca de mí y que nadie sabrá lo que el cielo nos da. Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal
es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer, y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco. Antes o después, por donde me fui, me verás volver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.